Radio Okapi.
Madame, Monsieur, bonjour. La situation sécuritaire, la protection des civils et les efforts conjoints à fournir pour une stabilisation durable de l'Ituri, des sujets abordés aujourd'hui à Bounia entre le chef de la MONUSCO et ses interlocuteurs. Pour James Swan, ceci passe notamment par le renforcement de l'autorité de l'État et la consolidation des mécanismes de dialogue local. Vous le suivrez dans cette édition. Dans l'actualité aussi, ce tiraillement à l'Assemblée nationale autour de la motion de défiance visant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Certains, comme l'initiateur de la motion, accusent le bureau de bloquer son examen, ce que rejette le bureau de la Chambre basse. Notre invité est Dr Audrey Mulumba, coordonnateur national du programme élargi des vaccinations PEV. Il va notamment nous expliquer les causes de la persistance de la poliomyélite au Maniema, malgré l'organisation de nombreuses campagnes de vaccination sur place. Bienvenue à cette édition. La province de l'Ituri reste une priorité pour la MONUSCO face aux défis sécuritaires persistants, notamment l'activisme des groupes armés locaux et des ADF. Déclaration faite aujourd'hui mercredi par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. James Swan s'exprimait à l'issue d'un point de presse après une réunion avec le gouverneur de province puis le comité provincial de sécurité. Au cours des échanges, plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation sécuritaire, la protection des civils, ainsi que les efforts conjoints à fournir pour une stabilisation durable de la province. Cela passe entre autres par le renforcement de l'autorité de l'État et la consolidation des mécanismes de dialogue local, a précisé James Swan. Il est au micro d'Isaac Raymond.
L'Ituri demeure une province prioritaire pour la MONUSCO. Les populations civiles continuent d'y être affectées par la violence des groupes armés comme la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, et la Coopérative pour le Développement du Congo, CODECO, occasionnant des déplacements et des tensions intercommunautaires. Dans ce contexte, la MONUSCO assure la protection physique directe de centaines de milliers de déplacés en étroite collaboration avec les forces nationales congolaises. La stabilisation de l'Ituri nécessite le renforcement de l'autorité de l'État, la redevabilité, la lutte contre l'impunité et la consolidation des mécanismes de dialogue locaux. Nous avons parlé de notre collaboration déjà étroite avec les autorités de la région, y compris l'importance des efforts assidus et continus par rapport à la menace posée par les ADF. Et ça aussi a figuré beaucoup sur la liste de nos priorités pendant ces échanges avec le gouverneur et son équipe.
Avant Bounia, le chef de la MONUSCO était à Beni, dans le Nord Kivu. Et sur place, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a appelé hier mardi à considérer les rebelles des ADF comme d'autres groupes terroristes à travers le monde. Son président l'a dit au chef de la MONUSCO lors d'un échange avec les députés provinciaux à Beni, chef-lieu provisoire de la province. Pour l'organe délibérant, la problématique des ADF accusés de nombreuses exactions graves contre des civils au Nord Kivu et en Ituri ne doit pas être uniquement une affaire de la RDC. L'Assemblée provinciale a également alerté le chef de la MONUSCO sur une situation humanitaire jugée chaotique en raison de l'insécurité persistante au Nord Kivu. On écoute son président Robert Seninga. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Nous lui avons parlé de la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, la situation humanitaire qui est chaotique, mais aussi la situation de développement qui est affecté à la suite des affres de la guerre. Il a été réceptif et nous lui avons remis notre courrier de l'Assemblée provinciale qui retrace toutes les situations que traverse la population du Nord Kivu. Par rapport à la partie sud, nous avons recommandé qu'ils puissent exercer leur mandat pleinement, leur confié par les résolutions 2773 et 2808. Ils doivent assurer la surveillance de cessez-le-feu et la protection des civils. Et par rapport au Petit Nord, nous avons recommandé que soient prises en compte ZADF, MTN, comme d'autres terroristes du monde, que ça ne soit pas la question de la République démocratique du Congo, que ce soit une question mondiale, qu'on traite aussi les ADF de la même façon et qu'on utilise le même moyen pour éradiquer ce phénomène.
Dans les territoires de Bafoué-Sindé, dans la Tchopo, entre-temps, ils sont désormais plus de 7500 déplacés à s'entasser dans cette contrée après avoir fui l'horreur des massacres attribués aux rebelles des ADF dans les territoires voisins des Mambasa. Arrivés les mains vides, ces déplacés vivent aujourd'hui dans une précarité absolue, sans accès aux soins ni à la nourriture. Dans ce récit poignant, l'un d'eux livre un témoignage brut sur leur calvaire. Il lance un cri de détresse au gouvernement congolais, un appel urgent pour une assistance humanitaire immédiate et le rétablissement de la sécurité dans leur village d'origine. On l'écoute au téléphone de Jacques Mokonkole.
Moi, j'ai habité Moutiacha. De suite à ce que vous avez appris là-bas, il y a eu vraiment des hostilités qui nous ont amenés à ce que nous puissions quitter le lieu. On a égorgé les gens, on a tué les gens, alors ça a fait peur.
Pratiquement, vous êtes d'accueil lié.
Moi, je me trouve, présentement, je me trouve à Bafoué-Sindé. Je suis dans une famille d'accueil. Vraiment, c'est difficile, mais nous remercions quand même la famille d'accueil parce que sont en train de nous prendre en charge, mais c'est très difficile. Nous menons une vie très difficile, vraiment. Très difficile. Nous sommes en train de plaveter une vie très difficile. La famille d'accueil n'est pas en mesure de nous prendre vraiment en charge totalement. Donc, on vit très difficilement. Nous demandons au gouvernement de faire des sommiers pour nous venir en aide, aux ONG, de nous apporter quand même les assistances humanitaires.
Depuis, nous secourir.
Ce qui vaut au moins 145 cas de violations graves des droits humains ont été documentés au cours du mois de mars 2026 dans les territoires de Chabunda et Fizi, des faits marqués notamment par le recrutement d'enfants par des groupes armés et des violences contre des civils. Ces données sont contenues dans un rapport publié le 1er avril par l'ONG locale de défense des droits humains, Bloc Citoyen Amani, une structure active dans le monitoring de protection au Sud Kivu. Des détails avec Jean Castami.
Selon ces rapports, Chabunda concentre à lui seul 59% des cas enregistrés contre 41% pour le territoire de Fizi. Parmi les violations documentées, 34 cas concernent l'utilisation d'enfants par des groupes armés, notamment les Wazalendo. Le rapport fait également état de meurtres par balles, d'arrestations arbitraires, des cas de torture et de traitements inhumains, ainsi que de pillages, d'extorsions et des disparitions forcées. Ces exactions auraient été commises pendant, avant ou après des affrontements armés, exposant davantage les populations civiles déjà vulnérables. Le bloc citoyen Amani alerte sur une détérioration de l'autorité de l'État dans ces zones, favorisant l'impunité et la prolifération des groupes armés. Face à cette situation, l'organisation recommande aux autorités congolaises de poursuivre les auteurs de ces violations et de renforcer les mécanismes de protection des civils. Elle appelle également les groupes armés à cesser le recrutement des enfants et à libérer immédiatement ceux encore enrôlés. De leur côté, les partenaires humanitaires sont invités à renforcer les programmes de protection de l'enfance et à appuyer les efforts de lutte contre l'impunité. Nous n'avons pas pu encore obtenir la réaction des autorités à ce sujet. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Qu'en est-il de la motion de défiance visant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sur fond de dégradation de la situation sécuritaire, notamment à Kinshasa? Plus d'une semaine après son dépôt à l'Assemblée nationale, les signataires accusent le bureau de la Chambre basse de bloquer le contrôle parlementaire, faute d'inscrire cette motion à l'ordre du jour pour examen en plénière. L'initiateur de cette démarche, le député Ladi Iyango Tikala, élu de Kisangani dans la province de la Tchopo, dénonce une violation du règlement intérieur. Pour lui, ce document prévoit un délai de 48 heures après le dépôt pour le traitement d'une motion. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
Le règlement intérieur qui régit notre chambre dit dans son article 235 que la motion, une fois déposée, ne peut être traitée que 48 heures après. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour après dépôt. Malheureusement, le bureau n'a pas encore réussi à convoquer la plénière. Malgré les tentatives de dissuasion, enfin de pousser les uns les autres à retirer leur signature et nous autres à nous retirer de cette initiative, nous restons sereins que la prochaine plénière, elle sera consacrée à l'alignement et au traitement de la motion visant les vice-premiers ministres pour qu'ils viennent expliquer à notre chambre la situation sécuritaire des Kinoises et Kinois, des Congolaises et Congolais, des Boyomaises et Boyomais, et enfin que la plénière puisse procéder au vote comme le stipule l'article 236 du règlement intérieur.
En réaction, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, rejette les accusations de blocage du contrôle parlementaire et rassure les signataires quant à la suite réservée à leur démarche et affirme que le règlement intérieur de la Chambre basse n'a pas été violé. Selon lui, l'article 235 fait l'objet d'une mauvaise interprétation et ne prévoit pas que la motion soit examinée dans un délai de 48 heures, mais qu'elle ne peut l'être qu'après ce délai. On écoute Jacques Joly, joint lui aussi par Grâce Amzati.
Cette motion a été déposée le 13 avril à 14 heures et le même jour, puisque la motion est adressée au président, nous avons rassuré notre collègue que de les retours du président, il allait, n'est-ce pas, s'occuper d'abord de l'examen formel de sa recevabilité et de la suite à donner, notamment la fixation éventuelle à la première. Sur ce point-là, je voudrais vous dire que la lecture et l'interprétation de l'article 235 doivent se faire de manière claire. Il est écrit en effet que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt. Il n'est nullement dit que le débat et le vote doivent avoir lieu dans les 48 heures. C'est une lecture qui n'est pas exacte. Donc je voudrais rassurer les collègues, mais aussi l'opinion, que l'Assemblée nationale y mettra toute son énergie pour s'acquitter des devoirs et surtout répondre aux attentes des élus, mais dans le respect de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée.
Bonne nouvelle au Kasaï oriental. Après un mois et une semaine de suspension, les audiences ont repris lundi au tribunal de grande instance de Mbujimayi. La mesure disciplinaire visant deux juges a été levée la semaine dernière par un jugement de la chambre disciplinaire. Explication avec Esther Lalafina.
Les activités judiciaires ont effectivement redémarré lundi dernier dans la salle des audiences du palais de justice de Mbujimayi. Une reprise très attendue par de nombreux justiciables après plus d'un mois de paralysie liée à la suspension des deux juges du tribunal de grande instance. Selon les informations recueillies, la chambre disciplinaire a rendu son jugement la semaine dernière, réhabilitant les deux magistrats suspendus par le premier président de la cour d'appel. Ce dernier leur reprochait d'avoir statué dans la précipitation sur un dossier pénal, une décision qui avait entraîné leur mise à l'écart temporaire. Durant la période de suspension, les deux juges avaient introduit un recours auprès de la chambre disciplinaire. Celle-ci a finalement levé la mesure, estimant qu'ils pouvaient reprendre leurs fonctions et poursuivre l'examen des dossiers en attente. Le premier président de la cour d'appel du Kasaï oriental confirme que cette décision vise à permettre au tribunal de fonctionner normalement. Plusieurs sources judiciaire et administrative plaide désormais pour un renforcement du personnel magistrat au TGI de Mbujimayi, où seulement 3 juges sont actuellement opérationnels pour une population estimée à plus de 3 millions d'habitants. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, déplore les mauvaises conditions de détention à la prison centrale de Kananga. À l'issue d'une enquête récente, cette institution étatique de défense des droits humains a constaté une rupture de stock de vivres ainsi qu'une pénurie totale de médicaments, une situation qui met en danger la vie des détenus. La CNDH appelle le gouvernement central à intervenir en urgence afin d'éviter le pire. Le point avec André Katendengalamulumi.
Manque de nourriture, absence de soins médicaux, insuffisance d'eau potable et mauvaises conditions d'hygiène, telle est la situation que vivent les détenus de la prison centrale de Kananga. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, cette situation dure depuis plusieurs mois. Son coordonnateur provincial, Maître Vincent Kayembe, indique que les conditions se détériorent davantage pour les détenus transférés d'autres localités, souvent sans assistance. Il explique.
Actuellement, dans notre prison, les prisonniers sont malades, le dispensaire qui est là ne dispose pas des médicaments, les prisonniers n'ont pas à manger, il y a rupture des stocks en termes des rations. Depuis mi-février, ils n'ont pas accès à l'eau et les conditions hygiéniques laissent à désirer.
Maître Vincent Kayembe affirme également qu'un détenu est déjà décédé récemment faute de nourriture et des soins médicaux. Pour lui, cette situation constitue une violation grave de la dignité humaine et des droits fondamentaux garantis par les instruments juridiques. Il appelle les gouvernements centraux à intervenir en urgence afin d'éviter d'autres décès dans les jours à venir. Kananga, André Katendenga Lamolume, Radio Kapi.
Le procès du Fonds pour la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda Frivao s'est ouvert hier mardi devant la Cour de cassation à Kinshasa. Le principal accusé, Chansar Bolukola, ancien coordonnateur du Frivao, comparé pour des accusations graves de détournement de plusieurs millions de dollars destinés aux victimes de la guerre de six jours à Kisangani. Il est notamment poursuivi pour avoir attribué de manière opaque des marchés publics à des sociétés soupçonnées d'être inexistantes, mais également la société Divo SARL qui aurait reçu plus d'un million de dollars américains pour la réalisation d'un documentaire. Toutefois, plusieurs manquements auraient été constatés dans l'exécution de ce projet cinématographique, ce qui a conduit les autorités judiciaires à suspecter un possible détournement de fonds publics. La juge présidente a relevé l'absence de localisation de ces entreprises, les qualifiant de sociétés fictives faute de preuves matérielles. L'audience a été renvoyée à vendredi prochain pour la poursuite des débats.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier mardi dans la soirée le maintien du cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à la fin de discussion, ainsi que la poursuite du blocus des ports iraniens. L'incertitude demeure quant à une éventuelle reprise des pourparlers entre Washington et Téhéran, les deux pays multipliant menaces et déclarations à caractère belliqueux.
L'invité.
La province du Maniema est considérée aujourd'hui comme l'un des principaux foyers de la poliomyélite. Pourquoi cette maladie persiste-t-elle dans la région malgré l'organisation de nombreuses campagnes de vaccination? Notre invité, le Dr Audrey Moulumba-Wankamba, coordonnateur national du programme élargi de vaccination PEV actuellement en séjour au Maniema, explique ce qu'il en est. Dr Audrey Moulumba répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Audrey Moulumba-Wankamba, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie cette forte mobilisation du PEV national avec ses partenaires dans la province du Maniema?
Oui, nous sommes dans une mission habituelle parce qu'on les fait dans plusieurs provinces. Mais ici, c'est suivre la mise en œuvre des activités de vaccination de routine et aussi des activités de polio, la lutte contre la polio. Donc, c'est ce qui a fait qu'on vienne avec les amis de la fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates comme on l'a dit, et aussi Gavi, parce que comme vous le savez, c'est eux qui mettent les fonds dans la plupart des campagnes et aussi dans la vaccination de routine. Ils accompagnent le gouvernement.
Docteur, quel paradoxe. Les campagnes se multiplient et la province n'a fait qu'enregistrer les cas de poliomyélite.
Madame, vous savez que par rapport à la polio, nous sommes dans un programme d'éradication. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait des cas, que ce soit des poliovirus sauvages, que ce soit des poliovirus dérivés des vaccins. Donc ici, dans le Maniema, et beaucoup plus précisément dans l'antenne de Kasongo. Nous avons maintenant presque 5 cas de virus qui sont dérivés de vaccins. Ça pose un problème. Ça montre effectivement que notre vaccination de routine n'est pas encore à des couvertures maximales qui peuvent arrêter la circulation de ces virus là-bas. Voilà un peu pourquoi chaque fois qu'il va y avoir des cas de poliovirus, il faudra qu'on fasse une ceinture autour de ces cas. Voilà pourquoi 5 c'est quand même beaucoup. Mais on a déjà fait beaucoup d'efforts. Si vous voyez, on vient de plusieurs cas et aujourd'hui on est à 5. Il faudra qu'on arrive à 0 cas. Voilà pourquoi on continue toujours à renforcer l'immunité collective dans la population.
Bien qu'on renforce l'immunité collective de la population, mais aujourd'hui, docteur, la province du Maniema est considérée comme province pourvoyeuse des cas de poliomyélite, même au niveau national et international.
Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut, ici sur place, il faut que nous puissions améliorer la qualité de la vaccination de routine et la qualité de ces campagnes que nous organisons. On a déjà organisé plusieurs campagnes. Est-ce que ce sont des campagnes de bonne qualité? Donc, pour mettre cette qualité là-bas, il faut qu'on regarde l'impact que ça donne. Or, ici, on a vacciné, mais juste après, vous avez des cas. Ça pose un problème qu'il faudra qu'on améliore. Raison pour laquelle nous avons discuté avec les experts de la province pour que on fasse un peu plus attention à la qualité de nos activités de vaccination.
Les vaccins n'ont pas de problème, c'est seulement la qualité des vaccinations. Alors, quand vous dites que vous allez améliorer, ça sera, vous allez faire concrètement quoi?
D'abord, dans la qualité, il y a 3 choses. Il y a 1, les ressources humaines. 2, les orientations qu'on est en train de donner. Et 3, les outils qu'on utilise. Je crois que ici, nous avons des normes et nous avons des procédures. Qu'on respecte seulement les procédures. On ne peut pas mettre dans une campagne quelqu'un qui n'a jamais vacciné, quelqu'un qui ne comprend pas l'utilité des vaccins. Quand on dit le nombre d'équipes, il faut respecter le nombre d'équipes. Quand on dit, par exemple, qu'il faut superviser, il faut que les gens qui ont un grand nombre de compétences suffisamment élevées pour superviser les équipes. Tout ça, il faut qu'on passe passe dans une activité de masse dans tous les villages. Ne laissez personne à côté. Faites de cette façon-là, madame, je crois qu'on va avoir de bons résultats.
Docteur, à part la poliomyélite, mais il y a aussi les maladies évitables par la vaccination qui ne se font qu'augmenter dans la province. Qu'est-ce que les niveaux nationaux peuvent vous compter faire pour éradiquer cette situation?
Pour les autres maladies, par exemple la rougeole, c'est effectivement, comme je l'ai dit, dans la rougeole, il faut qu'on respecte le timing. C'est-à-dire, par rapport à la vaccination de routine, il y a des cycles chaque 2 ans normalement. Chaque 2 ans, on devait faire ce qu'on appelle la récupération de personnes qui n'ont pas été vaccinées. On les appelle les susceptibles, tu vois. Même ceux qui ont été vaccinés, mais pour lesquels, par exemple, l'immunité n'a pas tenu. Comme nous n'avons pas fait, on a, par contre, comme il n'y a pas que la rougeole, il y a aussi la rubéole, nous avons introduit un nouveau vaccin. Ce nouveau vaccin, c'est le vaccin qu'on verra RR, qui fera qu'on puisse d'abord l'introduire, ce qui a déjà été fait, et puis qu'on regarde entre 2 ans et 3 ans, qu'on récupère les susceptibles, et aussi on améliore la communication. Ici, il y a beaucoup plus de résistants. Qu'on améliore la relation entre les services de vaccination et la communauté.
Vous venez de le dire, il y a des résistants jusqu'à aujourd'hui, les parents qui résistent encore à la vaccination. Qu'est-ce que vous dites à ces parents?
Non, un parent qui aime bien son enfant, il va le faire vacciner. Parce que ces mêmes parents-là, aujourd'hui, ils le sont comme parents, tout simplement parce qu'on les a protégés. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou pour ça. Faisons vacciner nos enfants. C'est une façon de les aimer.
Docteur Audrey Mulumba Wakamba, merci.
Merci bien.
Docteur Audrey Mulumba, coordonnateur national du PEV, le programme élargi de vaccination. Ainsi prend fin ce journal préparé par Alain Rung avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde, Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellent après-midi.